Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Long distance information, give me Memphis, Tennessee. But I know who placed the call, 'cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who flown me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on the ridge, just a half a mile.
C'est notre dernier rendez-vous de l'année 2019 et nous avons concocté pour vous un florilège de quelques rencontres et conversations chaleureuses diffusées ces 12 derniers mois dans cette émission. Disons-le sans prétention aucune, nous avons été gâtés cette année puisque nous avons pu interroger quelques grandes personnalités de l'épopée des musiques noires, à commencer par l'immense George Benson qui présentait le 9 juillet à l'Olympia à Paris l'album Walking to New Orleans en hommage à deux de ses héros, Chuck Berry et Fats Domino. Inutile de vous dire que nous étions enchantés de passer un moment avec George Benson, 76 ans, pour évoquer ce disque pétri de souvenirs.
In a way, it's nostalgia, especially for me or people from that era.
Il y a en effet une intention nostalgique dans cet album, particulièrement pour des gens de ma génération. Cela dit, c'est aussi l'occasion de faire découvrir des artistes que l'on ne connaît pas bien. Certes, le nom de Chuck Berry a fait le tour du monde, mais ce répertoire n'est pas connu de tous. Fats Domino mérite d'être encore découvert et dès que le grand public se sera réellement familiarisé avec ses chansons, il sera honoré à sa juste valeur. Beaucoup de souvenirs me sont revenus en mémoire. J'ai réalisé combien ils étaient exceptionnels pour leur époque. Et puis je me suis intéressé aux paroles de leurs chansons et je me suis dit, qui sont donc ces gens pour avoir écrit de si beaux textes? Le public ne pouvait qu'adhérer à leurs histoires. Finalement, interpréter leurs mots fut une forme d'éducation musicale pour moi.
An educational value for me.
Dans les années 50, le rock'n'roll prenait de l'ampleur au détriment du jazz. Est-ce que vous aviez hésité à vous lancer dans le jazz plutôt que le rock?
I did some of that when I was in my mid-teens.
J'ai en effet hésité durant mon adolescence. La guitare était devenue un instrument tellement visible dans les années 50. Avant cela, c'est le piano qui a attiré l'attention, mais quand le rock'n'roll a fait irruption dans le paysage musical américain, tout le monde voulait jouer de la guitare. Un Elvis, qui était un piètre guitariste, s'en est emparé. Être guitariste était un gage de popularité. Chuck Berry était l'un des grands innovateurs de l'époque et il a contribué à l'essor de la guitare. J'étais alors perçu comme un jeune chanteur, un peu charmeur, on m'appelait Little Georgie. Et puis un jour, mon père m'a posé cette question. Pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas les disques de Charlie Parker plutôt que ce rock'n'roll sans avenir? Je lui ai répondu, Charlie qui? Et là, il me rétorque, je comprends mieux pourquoi tu n'es pas capable de jouer de la vraie musique. Tu ne sais pas ce que c'est que la musique. Je me suis donc mis à écouter les œuvres de Charlie Parker et j'ai compris ce que me disait mon père. Personne n'a joué du saxophone comme Charlie Parker. Il était un improvisateur exceptionnel. Et pour moi, il était devenu le king. Et j'ai pris conscience que la musique pouvait aussi être interprétée de cette manière-là. Dans le jazz, chaque concert peut être différent si vous maîtrisez votre instrument et l'improvisation. J'ai donc appris à m'approprier les chansons que je voulais jouer sur scène. J'étais capable de jouer blues, de jouer jazz, de jouer rock. La même chanson pouvait prendre, à ma guise, une tonalité différente. Et ce fut une révélation. En quelque sorte, c'est Charlie Parker qui m'a appris cela.
Charlie Parker m'a appris comment faire ça.
Toute votre vie, George Benson, vous avez eu le bonheur de jouer avec tout le monde. De Miles Davis à Billy Cobham, B.B. King, Al Jarreau, Stevie Wonder, Aretha Franklin. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de partager la scène avec Chuck Berry et Fats Domino?
No, but I did get an offer.
Non, mais j'ai reçu une proposition de l'entourage de Fats Domino. Certains de ces musiciens m'ont entendu jouer de la guitare quand j'étais adolescent et m'ont proposé de les suivre en tournée. J'avais 15 ans et j'ai pris peur. Je ne me voyais pas quitter Pittsburgh pour prendre la route avec des inconnus. Et pour moi, voyager à travers le pays, c'était partir à l'aventure et je ne me sentais pas prêt à vivre cela. J'ai donc refusé la proposition. Le musicien qui m'avait fait cette offre était le guitariste de Fats Domino à l'époque. Je me souviens qu'il était gaucher. Il apparaît sur plusieurs albums de Fats Domino, dont Walking to New Orleans, qui a inspiré mon album. Il était sur le point de quitter l'orchestre de Fats Domino pour aller jouer avec un artiste du nom de Don Ho, qui fut très célèbre pendant 50 ans et qui était l'équivalent de Bing Crosby à Hawaï. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas rejoint l'orchestre de Fats Domino et je ne cesse de me dire depuis cette époque où serais-je aujourd'hui si j'avais accepté cette proposition? Je pense que je n'avais pas conscience de la valeur du personnage à l'époque. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé l'impact qu'il a eu sur des millions de gens à travers la planète. C'était un artiste très respecté, notamment à la Nouvelle-Orléans. Quand l'ouragan Katrina a ravagé la région, les habitants se sont précipités vers la maison de Fats Domino pour s'assurer qu'il allait bien. Ils l'ont finalement évacué et lui ont sauvé la vie. Il était donc perçu comme un pilier de la culture néo-orléanaise. Il a beaucoup plus d'importance que l'on ne peut l'imaginer.
New Orleans community. When they had a flood down there in New Orleans, first thing they thought about, man, we got to go get Fats out of there, and they did, saved his life. So he was a lot more important than a lot of people imagine.
You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame.
Ain't that a shame, emprunté à Fats Domino par George Benson, qui fut donc notre invité le 14 juillet dernier dans l'épopée. Curieusement, cette année 2019 fut pleine de nostalgie. Chacun de nos invités voulait se raconter et se rappeler du bon vieux temps. Le 3 février 2019, nous avions le privilège d'avoir à notre micro l'illustre Salif Keïta, venu annoncer la fin d'une épopée discographique, mais le début d'une vie de septuagénaire davantage tournée vers ses contemporains. Après 50 ans d'une carrière musicale palpitante, certaines images, certaines prestations, certains événements historiques lui revenaient en mémoire.
Avec Manu Dibango, Isundur, les Turikunda, tout ça là, ça me rappelle tellement de choses. Quand on s'est réunis pour faire Tantan pour l'Éthiopie, après on a fait, en 1988, on a fait la libération de Mandela à Wembley, tous les artistes du monde. Pour ne citer que ceci, parmi tant d'autres occasions qui s'est passé pour la vie sociale dans le monde, je crois que il y a de quoi vraiment être fier de ce qui s'est passé dans la vie artistique. Surtout en France, dans les années 80, la venue de la musique africaine, c'était quelque chose.
Avec les Youssou N'Dour, Mori Kanté, Salif Keïta,
Alpha Blondy, Oui.
C'est vrai qu'au début des années 80, il y avait véritablement une explosion des musiques africaines en France.
Tout à fait, c'était vraiment agréable. Tout à fait.
Soyons positifs.
Oui.
On va se souvenir d'un grand moment que vous avez vécu en juin 1988. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Salif Keïta. Vous aviez participé à un grand concert au stade de Wembley en l'honneur de Nelson Mandela, qui était toujours emprisonné à l'époque, hein, il faut le rappeler. Il avait 70 ans.
Ouais.
Quel souvenir avez-vous de cet événement précisément? Quelle image, on va dire?
L'image, je crois que l'unité fait la force. Parce que tous les musiciens du monde et les organisateurs, les journalistes, que ce soit les télés, les radios, tout le monde s'est levé pour se battre pour la libération de Mandela. Et c'était fantastique. C'était vraiment très, ça a explosé. Et ça a réussi. Ça a servi à quelque chose.
Vous veniez de faire paraître Sorrow à l'époque. Et depuis, 14 autres albums ont rythmé les décennies. Et comme nous sommes des fans indécrottables, Salif Keïta, nous avons compilé quelques-uns de vos grands classiques.
Merci.
Quelques instantanées d'une épopée magistrale, celle de Salif Keïta, c'était le 3 février dernier sur nos ondes. Autre figure majeure de notre temps, c'est le saxophoniste et chef d'orchestre Manu Dibango. Lui aussi semblait vouloir se retourner sur son passé à travers un safari symphonique qu'il présenta à Vienne, en France, avec l'Orchestre de Lyon le 12 juillet 2019. Et nous étions sur place pour immortaliser ce moment. Quelle est la principale difficulté pour un jazzman ? De se confronter à la rigueur d'un orchestre classique.
La rigueur.
La réponse est dans la question.
Et voilà, c'est ça. Donc, Je dis toujours, attention, moi je ne suis pas un musicien de jazz, mais je suis un très bon amateur de jazz. Mais dans ma gibecière, j'ai le jazz, j'ai le latino, j'ai l'africain, j'ai beaucoup de choses que j'aime dans ma vie, précisément. Naturellement, je n'aime pas les carcans, quoi. Parce que classer un musicien, c'est d'abord lui donner trop d'importance et lui donner une charge qui est trop lourde pour lui, parce que lui-même, il finit par croire que, ouais, bon, je suis musicien africain, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs. Qu'est-ce qui parle l'Africain, hein? Qu'est-ce qui parle l'Européen? Voilà, donc c'est tous des trucs comme ça qu'on a dans la tête. Tu es du Cameroun, d'accord, mais au Cameroun, il y a plusieurs rythmes. Dire que tu es musicien camerounais, d'ailleurs, c'est aussi un problème. Hein? Mais que tu sois musicien d'origine camerounaise, oui, c'est normal, d'origine française, d'origine italienne. Mais qu'on te donne une casquette que je suis musicien africain, c'est un peu compliqué quand même. L'Afrique, ce n'est pas un pays, hein, c'est un continent. Hein, je veux dire qu'ici, ce qu'ils font en Russie, c'est pas ce qu'ils font en France. Hein, d'où l'intérêt pour un musicien, précisément, d'adorer la différence. Là, elle est justifiée, la diversité, elle est comprise dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas facteur d'unité, mais ça veut dire que c'est une saine diversité, parce qu'elle aiguise la curiosité d'un musicien, logiquement. C'est pour ça que moi, dès le départ, je me suis mis dans la position de quelqu'un de disponible et pas quelqu'un d'une ethnie spécifique. Je ne serai pas musicien dans ma vie si je suis là que pour représenter mon ethnie. Ça ne veut pas dire que ceux qui le font, ils ont tort, non. Mais dans ma conception, je ne peux pas. D'abord, mon éducation musicale, tu sais ce que c'est. Tu sais que nous, on était allemands avant. Il y a beaucoup de chorales chez nous. Mon oncle paternel, il jouait de l'harmonium du temps des Allemands chez nous. Bon, ma mère, elle dirigeait la chorale. Alors, quelque part, Manu, je suis né dans Alléluia, moi. Hein? Bon, et qu'est-ce que tu écoutes dans Alléluia Land? Tu écoutes Bach, Handel et tout ça. Mais tu ne le sais pas parce que tu chantes ça à ta langue. Hein? Il y a des gars qui ont traduit, donc c'est tout clair. Mais par contre, l'harmonie occidentale, tu l'as dans l'oreille. Dès le départ. Beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Oui, mais alors, c'est pas africain. Oui, mais alors, allez interroger l'histoire. Hein? Hein? C'est pas moi qu'il faut interroger.
Est-ce que Bach et Handel, justement, étaient des improvisateurs?
Ah oui, à leur époque, c'est des gars qui improvisaient. Chopin, tout ce monde-là était excellent en improvisation, d'ailleurs. Mais tu as des partitions avec des musiciens classiques, ils ont des espaces, des fois, pour improviser. Hein. Tu ne le sais pas toujours, mais il y a des moments où tu peux t'exprimer dans leur musique également. L'improvisation, c'est naturel à l'homme.
Alors, autre question qui va préciser la précédente. Est-ce que la musique classique peut swinguer?
Oui, ça dépend ce que tu appelles swing. Il y a le swing avec le battement de la tête, et dès que tu as le battement du pied et tout ça, mais il y a un autre battement où tu n'as pas besoin de pied et que le battement il est dans ta tête. La réunion heureuse des notes, la rencontre heureuse des harmonies et tout ça, c'est aussi un swing. Il n'y a pas qu'un swing.
Donc il y a plusieurs définitions pour le swing.
Ah,
parce que quand on parle de swing, on pense tout de suite évidemment à la Nouvelle-Orléans, au jazz, à Louis Armstrong, à Sidney Bechet.
Oui, c'est-à-dire on part au côté physique de la musique. Hein, parce que tu as envie de danser. Et c'est normal, le swing, il est né précisément dans ces... Mais aussi de ces rencontres à la Nouvelle-Orléans, c'est beaucoup de diversité à la Nouvelle-Orléans. C'était pas un truc mono, machin comme ça, c'était un truc beaucoup plus stéréo. Les gens venant d'horizons différents se rencontraient, les esclaves se rencontraient, ils venaient pas du même coin et tout ça. C'est un melting pot extraordinaire. Donc il y avait un swing physique. Puis après, au fur et à mesure... Tu arrives au cool jazz, par exemple, tu arrives à Miles, où le swing est différent. Quand tu écoutes Miles Davis avec Gil Evans, c'est sublime, mais c'est une autre façon d'aborder le swing.
Et si on écoutait Miles Davis et Gil Evans tout de suite?
Ouais, à Summertime, ça me dirait, moi, parce qu'on est en plein, là.
Eh bien, écoutons Summertime, alors. Thank you. C'était cet été à Vienne, en France. Nous écoutions Summertime de George Gershwin par Miles Davis en compagnie de Manu Dibango. Un vrai bonheur. Quelques semaines plus tôt, d'autres piliers de l'épopée des musiques noires venaient nous conter leur incroyable destinée aux côtés du parrain de la soul, James Brown. Les JBs, représentés par le bassiste Fred Thomas, le batteur Robert Thompson, le tromboniste Tyrone Jefferson et la chanteuse Cynthia Moore, étaient de passage à Paris ce printemps et dans nos studios le 19 mai 2019.
1, 2, 1, 2, 3, 1. Hot pants. That's where it's at. That's where it's at. Check your pants up on. It looks much better time. My feet keep going. Girl, blowing my mind. Hey, hot pants. Now look, hot pants. Won't make you dance, but as slick as you are. Ha.
Hot Pants, James Brown en 1971 avec à la basse Fred Thomas, l'un des fameux JBs et l'un de nos invités dans l'épopée. Est-ce que l'exigence professionnelle de James Brown est une valeur que vous portez en vous? Bien s'habiller, se comporter, parler avec respect, etc., etc. Cynthia.
Off stage and on stage, because that was his thing. He always wanted his band to look their best, the women to look their best. Whether they're with him or without him, because he just wanted you to project that image. He wanted us to be a very astute type person. We're carrying on his legacy. If he does it, he wants his people who are with him to do the same. Look good. And I mean, it does go a long way with that. Even at rehearsals, I mean, in the later years, he was more relaxed, but it's no, we couldn't wear sneakers or jeans or things like that. You'd get fined for that. We even had uniforms that were made for us so we could travel in them, the women and the men. Nothing too relaxing, like if you were at home. No, that was not allowed.
C'est exactement ça. James Brown imposait une discipline. Il fallait se montrer de la meilleure manière possible. Il fallait que les femmes qui étaient autour de lui aient un look sur scène absolument remarquable. Il fallait finalement projeter une image qui soit digne, qui soit celle de James Brown, un musicien professionnel. Et comme nous sommes d'une certaine manière aujourd'hui les légataires de tout cela, nous devons nous-mêmes nous présenter de la meilleure manière possible. Et même pendant les répétitions, il était très très précis. Il s'est un petit peu calmé à la fin de sa vie, mais au début, je me rappelle qu'il fallait vraiment être très précis. On ne pouvait pas arriver aux répétitions en jean et basket. Non, non, il fallait être propre, présentable, il fallait avoir de belles robes, de beaux costumes. C'était véritablement l'image qui comptait et c'était très important. Diriez-vous que James Brown a été un chaperon pour chacun d'entre vous, Robert? Yes.
Oh, most definitely, you know, because he knew exactly what he wanted, and you had to have big ears with Mr. Brown, you know, because you had to listen to him, and he knew exactly where he wanted. You know, it was no guessing factor involved with working with Mr. Brown, and coming in the forefront with him, you just had to have tough skin. And a lot of openness to hear what he had to say, you know.
I call it the University of James Brown.
Yes, sir.
No, I do. I seriously do.
Yes, JBU.
JBU. Yes, right. I like that.
The James Brown University.
Absolutely.
Yes. Mm-hmm.
The world according to James Brown.
And I had this slogan I always said. I said, we all was in the army. You know what I mean? We had to march to his tune, to his beat. You know, that's what he wanted. If you couldn't do that, go home.
Go home.
Robert disait que progressivement, il nous a habitués à être très précis. Il savait exactement ce qu'il voulait. Et c'est vrai, il était un peu un mentor, un chaperon pour nous tous. Et il voulait qu'on le suive véritablement. Tyrone précise que c'était comme être un peu à l'université. D'ailleurs, on avait appelé ça le James Brown University. Il fallait avoir vraiment du talent et avoir la peau dure. Et Fred Thomas termine en disant « Non, non, c'est encore pire que ça. C'était l'armée avec James Brown. Il ne voulait voir qu'une tête. » Mais en même temps, ça nous a servi et c'est ce qui a fait de nous d'excellents musiciens. Cynthia, combien de temps avez-vous passé auprès de James Brown?
I started with Mr. Brown in 91 and still here today.
Je suis entré dans son groupe en 1991 et je perpétue justement cette tradition depuis cette époque. Vous apparaissez, Cynthia Moore, sur l'album « Love Over Due ». Voici d'ailleurs un extrait de ce disque paru en 1991. Move On. Move On, James Brown et quelques-uns des JB's, dont la chanteuse Cynthia Moore, mais aussi Martha Hyde, dont nous reparlerons en 2020, puisque cette fidèle partenaire de James Brown annonce un nouvel album sous son nom le 17 janvier, intitulé Nothing's Going Wrong. Nous y reviendrons. Nous aurions évidemment pu sélectionner d'autres moments saillants de ces 12 mois trépidants, comme les interviews exclusives de Ron Carter, Ahmad Jamal, les discussions à bâton rompu avec Mino Sinelu, Sheikh Tidiansek, Abdoum Boup ou le Golden Gate Quartet. Mais il nous a fallu faire des choix, sinon nous aurions passé des heures à réécouter ces causeries fort sympathiques. Ayons aussi une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés cette année, James Ingram, Dr. John, Johnny Clegg, Art Neville, Joao Gilberto et tant d'autres. Et aussi une pensée appuyée à notre collègue de RFI, Toufik Benaïchouch, qui aimait tant le jazz et dont les conversations musicales nous manquent aujourd'hui. J'aimerais également remercier Laurie Plisson qui a compilé ces extraits d'émissions pour vous ce week-end et saluer chaleureusement Nathalie Laporte qui tout au long de l'année veille à la bonne tenue de cette émission. Sans oublier les équipes techniques qui m'accompagnent ici ou là lors de reportages passionnants et notamment Marc Fichet qui fut souvent à mes côtés cette année. Permettez-moi au nom de toute cette joyeuse troupe de vous souhaiter une lumineuse soirée de réveillon le 31 décembre prochain. Quant à nous, on se retrouve le 5 janvier 2020 pour une nouvelle aventure musicale et radiophonique avec le groupe Tech Six. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal. Carrefour de l'Europe.